On vient juste de chanter « Ton sang parle beaucoup mieux que tous les vains discours ». J'espère que ce matin, ce que je vais dire ne va pas être un vain discours, mais que vraiment, et c'est ma prière, je m'associe à Jo, que Dieu puisse parler à travers sa parole et qu'il y ait la puissance du message de la grâce qui puisse transparaître encore ce matin dans nos vies et dans nos cœurs. Nos amis québécois ont décidé depuis très longtemps, pour défendre la langue de Molière, de traduire absolument tous les termes anglophones et traduire aussi tous les titres de films anglophones. Alors, par exemple, chez eux, le film Toy Story va s'appeler Histoire de jouets. Fast and Furious, pour les gars, devient Rapide et dangereux. Chicken Run devient Poulet en fuite. Men in Black devient Homme en noir. De bons films, mais avec des titres, quand on les voit en français, pas forcément terribles, faut avouer. Et ce matin, je vous propose d'étudier un des textes les plus connus de la Bible et des évangiles. Mais malheureusement, un texte auquel on a donné un titre, traditionnellement, qui est à mon sens très, très mauvais. C'est une parabole de Jésus, dont Charles Dickens, un des plus grands romanciers de l'histoire, a dit que c'était la plus belle histoire jamais racontée. Ce matin, on va étudier la plus belle histoire jamais racontée. Alors, peut-être que vous l'aurez deviné, il s'agit de la parabole du fils prodigue. Prodigue signifiant dans ce cas quelqu'un qui dépense son argent sans compter. Mais le titre de cette parabole est, je trouve, vraiment, vraiment très mauvais. Et, juste entre parenthèses, le titre n'a rien de biblique, qu'on soit bien d'accord, hein, bien sûr. Mais le titre est mauvais. Pourquoi ? Pour deux raisons principalement. D'abord, ce titre n'attire pas nos regards sur le personnage principal de cette parabole. Parce que le personnage principal de cette parabole, ce n'est pas le fils cadet, c'est le père. C'est le père qui est le personnage principal de cette parabole. Et deuxième chose, ce titre occulte complètement la deuxième partie de la parabole où il nous est conté l'histoire du fils aîné. Il n'y a pas un fils dans cette parabole, il y en a bien deux. Un fils cadet, un fils aîné. Et à force d'appeler cette histoire la parabole du fils prodigue, on a souvent tendance à croire, pour certains, que ça ne nous concerne pas. Parce qu'on n'a pas fait les 400 coups. On n'a pas fait n'importe quoi à l'image du fils cadet. Mais on a peut-être été plutôt sage, plutôt obéissant dans notre jeunesse. Et c'est une grosse erreur d'appeler cette parabole la parabole du fils prodigue. Je pense qu'un bien meilleur titre, et je vous encourage à le mettre dans vos Bible, si vous avez le titre fils prodigue, de rayer fils, et de mettre la parabole du père prodigue. Parce que s'il y a quelqu'un qui est prodigue dans cette histoire, c'est bien le père. Le père est prodigue en amour, en pardon, en générosité envers ses deux fils. Tant pour le cadet qui est parti, que pour l'aîné qui est resté. On va le voir ensemble. Si prodigue comporte l'idée de donner quelque chose, le fils prodigue ne l'est pas vraiment. Il ne donne pas. En fait, il dilapide son argent, tout simplement. Le seul qui donne vraiment, qui est véritablement prodigue dans cette histoire, c'est le père. C'est lui qui donne gratuitement, sans compter, sans rien attendre en retour. C'est lui qui fait grâce. Son attitude prodigue est complètement disproportionnée par rapport à l'attitude ingrate de ses deux fils. Parce qu'ils sont tous les deux aussi ingrats l'un que l'autre. Mais avant d'entrer pleinement dans le texte, cette parabole, il est important de revenir sur le contexte qui entoure cette parabole. Et au début du chapitre 15 de l'évangile de Luc, on remarque que Jésus fait face à deux types de personnes, bien identifiées, au verset 1 et 2. Je vous encourage à lire avec moi, Luc 15, verset 1 à 2. « Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Il y a d'un côté les collecteurs d'impôts, les péagers, les collabos de l'époque, on peut dire. Les Juifs haïssaient ces personnes, les méprisaient, parce que non seulement ils prélevaient les impôts pour le gouvernement romain, mais en plus, ils le faisaient souvent avec dureté, avec injustice, profitant au passage pour s'en mettre plein les poches. Et il y a aussi tous les pécheurs notoires, c'est-à-dire tous les gens au plus bas de l'échelle sociale, ceux que personne ne voulait fréquenter, en tout cas pas les gens de la haute, entre guillemets. Personne ne voulait se mélanger à eux. Toutes ces personnes-là se pressaient autour de Jésus pour entendre son message de grâce. Et en face, il y a les pharisiens, les scribes, des gens bien, des gens moralement justes, irréprochables, mais qui s'offusquaient justement du fait que Jésus soit en lien avec le premier groupe. Et face à leurs critiques, Jésus va répondre par une série de 3 paraboles qui ont toutes comme sujet principal la joie qui habite Dieu, les réjouissances qui remplissent le ciel quand un perdu, quand un pécheur se repent. Ces 3 paraboles, c'est d'abord la parabole de la brebis perdue, qu'on trouve du verset 4 au verset 7, où un berger perd une brebis parmi 100 et court à sa recherche. Ensuite, la parabole de la pièce perdue, du verset 8 au verset 10, où une femme perd une pièce d'argent parmi 10 et met la maison sans dessous-dessous pour la retrouver, cette pièce. Et enfin, la parabole du père prodigue, pas du fils, hein, du père prodigue, qui est la plus longue et la plus détaillée des 3, du verset 11 au verset 32. Et dans cette dernière parabole, on retrouve très clairement les 2 catégories de personnes auxquelles Jésus est confronté au moment où il raconte cette parabole. Le fils cadet, de mauvais genre, qui fait tache dans cette famille. Le pécheur, dans toute sa splendeur, il représente les collecteurs d'impôts et les pécheurs notoires. Le fils cadet, c'est le rebelle. Et de l'autre côté, le fils aîné, qui semble bien, sous tout rapport, une sorte de genre idéal même. Celui qui se croit bien représente les pharisiens, les scribes. Le fils aîné, c'est le religieux. Et avant de lire le texte, j'ai une question à vous poser, une question fondamentale sur laquelle on reviendra plus tard. D'après vous, il vaut mieux être de quel côté ? Fils cadet mauvais genre ou fils aîné bien sous tout rapport ? D'après vous, de quel côté vaut-il mieux être ? Gardez cette question à l'esprit, on y reviendra. Et je vous invite donc à lire Luc 15, versets 11 à 32. Jésus poursuivit. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes qui mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé, tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. » Car voici mon fils était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et je l'ai retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour, ton père a tué le veau gras en son honneur, parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras ?»« Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi. Et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. » L'histoire commence avec le fils cadet qui vient voir son père. Tout, absolument tout dans l'attitude du fils cadet à ce moment-là est honteux. Et cela a sans doute beaucoup choqué les auditeurs de Jésus à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que dans la société orientale, c'est l'honneur qui est la principale valeur de quelqu'un. Et il n'y a rien de pire que d'être déshonoré. Et le père est déshonoré à ce moment-là par le fils cadet. Le fils cadet fait une demande honteuse d'abord. Il demande la part de son héritage. Tout le monde sait qu'on reçoit un héritage à la mort de la personne. Autrement dit, le fils balance d'une certaine manière à son père « J'aimerais que tu sois mort. » Imaginez-vous si un de vos enfants venait vous voir avec une telle demande. J'ose pas imaginer si Tom venait me voir pour me dire une chose pareille. Imaginez-vous. Le fils cadet a une gestion honteuse de son héritage, de ses biens. L'héritage de son père se composait sans doute d'un cheptel de bétail, de terres, de serviteurs, etc. Et le fils cadet vend tout. Tout ce que le père a mis sans doute beaucoup de temps à construire, le fils cadet vend tout. Il n'essaye pas de faire fructifier son héritage. Il vend tout. Et il a enfin un comportement honteux. On voit qu'il décide d'aller dans un pays lointain. Quelque part, on a l'impression qu'il veut aller le plus loin possible du père. Il veut une distance énorme avec le père. Et au lieu d'essayer de mener une vie bonne avec tout cet argent, il va gaspiller sa fortune en menant une grande vie. Et on n'a pas trop de mal à imaginer le type de vie qu'il a pu vivre là-bas. D'ailleurs, son frère aîné n'est pas dupe lorsqu'il dit au verset 30 qu'il a dilapidé son argent avec les prostituées. Tout dans l'attitude du fils cadet est honteux à ce moment-là. Il montre qu'il cherche à se libérer de toute forme de dépendance vis-à-vis de son père. Le père ne signifie plus rien pour lui. Il veut son indépendance. Il veut être indépendant du père. Mais dans cette histoire, il y a quelque chose d'encore plus honteux que le comportement du fils. Et ça, ça a dû choquer encore plus les auditeurs de Jésus. C'est le comportement du père. Le père a une réaction qui est tout simplement hallucinante. Au lieu de réprimander son fils cadet, au lieu de le remettre à sa place, il lui accorde sa demande et le laisse partir sans à aucun moment essayer de le retenir. Le père n'a aucune réaction émotionnelle à ce moment-là, de colère ou d'amertume. Et c'est important de le noter pour la suite. Pas de réaction de colère, pas de réaction d'amertume. Il laisse partir son fils sans chercher à le retenir contre son gré. Et au final, dans ce pays lointain, le fils cadet gaspille toute sa fortune, tant et si bien qu'il se retrouve sur la paille, au verset 14. Il n'a plus rien. Alors ça paraît incroyable de dilapider comme ça une telle fortune, mais ça arrive encore aujourd'hui. Un exemple parmi d'autres, Michael Carroll. Peut-être que vous ne le connaissez pas, moi je ne le connaissais pas avant. Un éboueur de 18 ans. En 2002, il a gagné 11 millions d'euros au loto. Éboueur à 18 ans, gagne 11 millions d'euros. On peut se dire que, sacrée chance. Ça s'est transformé en enfer pour lui. En quelques années, il a perdu la totalité de ses gains. Il a d'abord commencé par offrir plusieurs maisons aux membres de sa famille et ses amis. Ça, c'est sympa. Il a voulu s'acheter un club de foot. Pas forcément le meilleur investissement, a priori. Le reste, malheureusement, a été dépensé en drogue, prostituée, jeu d'argent. Sa femme est partie avec sa fille, lassée par son comportement. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis, des heures de travaux généraux. Aujourd'hui, il vit avec des aides sociales mensuelles d'environ 200 euros. 18 ans, éboueur, 11 millions d'euros. Et c'est la même chose pour le fils cadet. Après avoir eu tout le futile, imaginable, le fils cadet vient à manquer du nécessaire, puisqu'une famine survient au même moment. Il a dilapidé tout son argent, boum, famine en plus. Il n'a pas le choix, il faut qu'il trouve un taf, faut qu'il trouve un boulot. Et quel boulot ? Gardien de cochon, l'animal impur par excellence pour tout juif. C'est la déchéance la plus totale pour le fils cadet. Il est au fond du trou. Et cela aurait pu continuer ainsi toute sa vie, à se dire que j'ai mérité ce qui m'arrive. Ça aurait pu continuer ainsi toute sa vie. Mais d'un coup, et peut-être pour la première fois de sa vie, au verset 17, il est écrit, il se met à réfléchir. Affamé, sans argent, abandonné de ses amis, entouré de cochons puants. Il se rend à l'évidence, il a tout perdu. Argent, dignité, estime de soi, perspective d'avenir, il a tout perdu, ce gars-là. Et face à ce bilan affligeant, il reconnaît enfin deux choses importantes. Il reconnaît la bonté du Père, parce qu'il dit, il se rend compte que le Père n'est pas parti, le Fils n'est pas parti parce que le Père était dur ou méchant avec lui. Non. Au contraire, il fait le constat que tous les serviteurs de son Père sont bien et sont heureux chez lui. Au verset 18, il dit, « Tous les ouvriers de mon Père peuvent manger autant qu'ils veulent. » Ils sont bien, les ouvriers de son Père. Le Père est bon. Et il fait un deuxième constat important. Il fait constat du péché qui habite son cœur. Il est conscient que toute son attitude passée est marquée par le péché. Au verset 19, il dit, non, verset 18, pardon, « Mon Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. » Il se rend compte de son péché. Et il décide donc de retourner chez son Père, tout en étant conscient de ne plus mériter le titre de fils par rapport à tout ce qu'il a fait. Il veut se contenter de retourner chez son Père en espérant être reçu comme un simple ouvrier, comme un simple serviteur chez lui. Le fils retourne donc chez son Père. Comment les retrouvailles vont se passer? Qu'est-ce que le Père va lui dire? Comment le Père va accueillir celui qu'il a déshonoré? Est-ce que ce fils va être accepté comme un simple serviteur? On connaît la suite de l'histoire. L'accueil du Père pour le fils cadet est extraordinaire, incroyable. D'abord, verset 20, le Père le voit de loin. Et cela signifie que le Père guettait le retour de son fils. Le Père espérait le retour de son fils. Le Père pensait régulièrement à son fils, même si son fils était gravement planté. Le Père espérait encore son retour. Le Père continuait de penser à lui tous les jours. Le Père, il nous est dit au verset 20, est pris d'une profonde pitié, ou dans d'autres traductions, est ému de compassion. Ça le prend aux tripes de voir son fils. Rappelez-vous, quand il est parti, il n'y a eu aucune réaction émotionnelle, pas de colère, pas d'amertume. Mais là, à son retour, il y a une joie énorme qui remplit le cœur de son père. De voir la vue de son fils lui donne une joie extraordinaire. Le père court à la rencontre de son fils. Il y a une chose à savoir à ce propos. Au Moyen-Orient, une personne âgée, comme le père de cette parabole, ça ne court jamais. Pourquoi ? Parce que pour courir, il faut relever sa robe, montrer ses jambes, et ça, c'est honteux. Honteux au possible. C'est un déshonneur. Le père, en courant vers le fils, adopte une attitude honteuse, humiliante, mais il n'en a que faire, parce qu'il a trop de joie, il est trop heureux de retrouver son fils. Le père embrasse son fils, sans même connaître le discours que le fils a préparé. Il l'embrasse, parce qu'il a bien compris que si le fils est revenu vers lui, c'est pour demander pardon, c'est pour être accepté à nouveau. Et le fils cadet, de son côté, n'essaye pas de profiter de ce moment d'émotion pour passer outre. Il commence son discours, ce qu'il avait préparé. Il le dit, « Mon père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. » Mais le père le coupe dans ses paroles. Il sait que s'il est revenu, le fils est revenu pour demander pardon, pour être pardonné. Mais par contre, le père ne se soucie pas donc de cela. Le père se soucie plus des besoins de son fils. Son fils qui était au milieu de cochons puants. On peut s'imaginer quand il est arrivé chez son père comment il était. Il se soucie des besoins de son fils. Il lui donne le plus beau vêtement réservé à l'invité d'honneur. Il lui passe une bague au doigt qui était sans doute le symbole de l'autorité du père avec lequel sceller les documents familiaux. Il lui donne des sandales. Généralement, à cette époque, les esclaves, les serviteurs n'en portaient pas. Et quelque part, ces sandales représentent le complet rétablissement du fils, en tant que fils, justement, et pas en tant que serviteur, en tant que fils. Et enfin, il lui offre un festin en son honneur, un veau gras, un plat raffiné, coûteux, qui était réservé uniquement à des occasions spéciales, à des fêtes spéciales. Alice Gray raconte l'histoire d'un jeune homme, assis seul dans le bus qui le ramenait chez lui. Sa nervosité était telle qu'une grand-mère saisie de compassion lui a demandé si elle pouvait s'asseoir à ses côtés. Il ouvrit son cœur. En fait, il rentrait d'un séjour de 2 ans en prison. Il se demandait si sa famille allait le recevoir. Son crime avait choqué sa famille et elle n'avait jamais répondu à ses lettres. Peut-être aussi parce que ses parents n'étaient pas très instruits. Et lors de son dernier courrier, il avait dit à ses parents que s'ils ne voulaient plus le voir, ils comprendraient et qu'ils disparaîtraient de leur vie. Comme le bus devait passer devant chez lui, il leur avait dit de mettre un ruban blanc sur le vieux pommier. Mais c'était si difficile pour ce jeune homme d'attendre de découvrir comment la famille avait choisi de répondre. La grand-mère lui a donc proposé de prendre sa place près de la fenêtre, pour que ce soit elle qui constate la présence ou non du ruban blanc. Soudainement, elle se mit à crier. « Regardez, regardez, des centaines de rubans blancs. » On ressent la même chose dans l'accueil du père ici, pour son fils. Cet accueil extraordinaire représente bien sûr les multiples bénédictions offertes par Dieu pour le pécheur qui se repent. Le pardon gratuit, le fait d'être accueilli comme son enfant, la promesse de la vie éternelle. L'accueil extraordinaire du Fils par le Père est une image de la grâce scandaleuse de Dieu pour chacun d'entre nous. La grâce scandaleuse. L'histoire aurait pu se terminer là, et ça aurait été déjà une merveilleuse histoire, extraordinaire. Mais elle se poursuit. Et la deuxième partie de cette histoire est, je pense, tout aussi importante que la première partie de l'histoire. Le fils aîné, dont on ne savait rien jusque-là, rentre du boulot et entend la fête qui se passe à la maison. Il se renseigne pour savoir ce qui se passe. Et quand il apprend que toute cette fête est organisée pour son frère, il se met dans une terrible colère. Sa réaction est terrible. Le fils aîné se met en colère d'abord et il va déverser toute sa rage sur son père. Le fils aîné refuse d'aller vers le père. Il ne va pas vers le père pour se renseigner, pour comprendre le pourquoi d'une telle fête. Non. Qui c'est qui va à lui ? C'est le père qui fait de nouveau le pas vers lui. C'est le père qui fait le premier pas vers son autre fils et qui sort de la fête pour l'inviter à le rejoindre. Le fils aîné met en avant son comportement à ce moment-là. Et c'est vrai que son comportement est bon. Verset 29, il dit « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Jamais. » Il a travaillé dur. Il obéit. Il fait tout ce qu'on lui dit. C'est un gars bien. Une sorte de gendre idéal, encore une fois. Quelque part, on ne peut s'empêcher de compatir avec lui. Après tout, c'est vrai. L'histoire semble un peu injuste, non ? Pourquoi n'a-t-il jamais eu un chevreau pour se réjouir, lui ? Alors que son frère, qui a déshonoré toute la famille, tue le veau gras. On tue le veau gras pour lui. Le problème majeur, c'est qu'en disant ça, que fait le fils aîné ? Il dit que son père est injuste. Il déshonore le père. De la même manière que son frère. Son frère a déshonoré le père en partant. Le fils aîné déshonore le père à ce moment-là en disant « Tu es injuste, tu es mauvais. » Tu n'es pas un bon père. Il déshonore le père lui aussi. Le fils aîné aussi désavoue son frère. Quand il l'évoque, il parle de ton fils, pas de mon frère. Ton fils. Sa colère vient d'où ? Sa colère vient de la comparaison qu'il dresse avec son frère cadet. Dans son esprit, lui, il mérite une telle fête. Pas son frère. Il est jaloux de son frère. Le fils aîné ne supporte pas la grâce accordée par le père au fils cadet. Il ne la supporte pas. Et face à sa terrible réaction, le père a un message très fort pour son fils aîné. D'abord, le père lui parle en disant « mon enfant » au verset 31. Et il lui rappelle sa condition de fils. Il lui rappelle qu'il a toujours accès à lui. Il lui rappelle que tous ses biens sont à lui. Même si le frère fils aîné ne l'appelle pas père, le père lui dit « mon enfant, tu es mon enfant ». Et le père, deuxième chose, lui explique la raison de la joie qu'il habite à ce moment-là. Son frère qui était mort est revenu à la vie. Et ce faisant, il invite le fils aîné à les rejoindre à cette fête, à la fête du salut de son frère. Et la parabole se termine là, avec le sentiment d'un goût d'inachevé. Et une question qu'on se pose tous. Mais que va faire le fils aîné ? Que va faire le fils aîné ? Va-t-il accepter l'invitation lancée par son père et les rejoindre à la fête ? Ou va-t-il encore rejeter son père et son frère à ce moment-là ? Jésus ne termine pas cette histoire. Il ne termine pas cette histoire parce qu'il attend que son auditoire la conclue. Il lance à ce moment-là cette invitation aux pharisiens, aux scribes, et attend leur réponse. Que peut-on retenir de cette histoire, de cette parabole ? Je voudrais vous laisser deux leçons fondamentales qui vont se conclure sur une question fondamentale pour nos vies personnelles, familiales et communautaires dans l'Église. La première leçon fondamentale, importante, c'est que le fils cadet et le fils aîné sont tous les deux éloignés du Père. Ils sont tous les deux éloignés du Père. Une lecture trop rapide de cette parabole peut nous amener à croire que le fils cadet, c'est le vilain petit canard de la famille, le mauvais. Et c'est une grosse, grosse erreur. Les deux fils sont tous les deux autant éloignés l'un que l'autre du Père, mais pas de la même manière. Ils sont tous les deux pécheurs, mais pour des raisons différentes. Ils ont tous les deux besoin de la grâce de Dieu. Chez le fils cadet, le rebelle, son péché est flagrant, il saute aux yeux. Il a pris racine dans son désir d'autonomie, d'indépendance par rapport au Père. « Je veux m'éloigner de toi, je ne veux plus rien connaître de toi. » En voulant se rendre indépendant de Dieu, on est souvent confronté à ce qui se fait de pire dans la nature humaine. Et Paul le souligne en Romains 1, versets 28 à 31, il dit « Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, ils se sont éloignés de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées fausses, si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices, de méchanceté, d'envie, de vice. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelle, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leurs devoirs envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence, de loyauté, insensibles, impitoyables. » Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils se sont éloignés de Dieu, parce qu'ils ont mis une distance avec Dieu. Et Dieu les a abandonnés à leur péché. Chez le fils aîné, le religieux, son péché est plus subtil, mais il n'en est pas moins dévastateur. Même s'il est depuis tant et tant et tant d'années au service de son père et qu'il n'est jamais parti, il ne connaît pas son père. Il ne connaît pas son père. Il est tout aussi éloigné de son père que son frère. Il fait de bonnes œuvres, mais il est loin du père. Il ne connaît rien de la bienveillance du père. Et c'est pour ça qu'il ne comprend pas que son père puisse faire grâce à son frère cadet. Il ne connaît pas le père. Il voit dans son père un maître auquel il faut obéir pour être récompensé. Il cherche à mettre le père dans sa poche en se disant que s'il obéit, alors le père sera bien obligé d'eux. Si je fais ça, alors le père sera bien obligé d'eux. Il travaille pour son père non par amour pour lui, mais par amour pour lui-même. Pour son bénéfice à lui. Pour le fils aîné, la bénédiction du père n'est pas gratuite, elle se mérite. Il pense que par son travail, son service, la bénédiction du père lui sera assurée, quoi qu'il advienne. À ce propos, Elisabeth Elliot raconte une histoire apocryphe, donc une histoire qui n'est pas dans le texte biblique, à propos de Jésus. Un jour, Jésus dit à ses disciples, je voudrais que vous portiez une pierre pour moi. Sans leur fournir plus d'explications. Les disciples cherchent autour d'eux une pierre à emporter, et Pierre, avec son esprit pratique, s'affaire à trouver la plus petite possible. Après tout, Jésus n'a précisé ni le poids ni la taille. Il la glisse donc dans sa poche, et Jésus dit « Suivez-moi », et il se met en route. Vers midi, il ordonne à tout le monde de s'asseoir. Lève les mains, et toutes les pierres se transforment en pain. Il déclare alors « Il est temps de manger, il suffit de quelques secondes à Pierre pour avaler son maigre repas. » Puis Jésus ordonne aux disciples de se relever. Et il dit à nouveau, « Je voudrais que vous portiez une pierre pour moi. » Cette fois, Pierre pense, « Ah, maintenant j'ai compris. » Il regarde autour de lui et voit un petit rocher. Il le hisse sur son dos. Ça, c'est un gros rocher. Un petit rocher. Il le hisse sur son dos. Le poids est tel qu'il titube. Mais il se dit, « Vivement le prochain repas. Chouette !» Et Jésus conduit ses disciples aux portes d'une rivière et leur ordonne « Maintenant, jetez tous votre pierre dans l'eau. » Ils obéissent, puis il leur dit « Suivez-moi » et se remet en route. Pierre et les autres le regardent avec stupéfaction. Et Jésus leur demande alors en soupirant « Ne vous souvenez-vous pas ce que je vous ai demandé de faire, pour qui avez-vous porté la pierre ? Pour qui avez-vous porté la pierre ? Et comme Pierre dans cette histoire, les frères aînés s'attendent à ce que leur bonté, leurs œuvres, soient récompensées. Et si ce n'est pas le cas, ils sont perplexes et furieux envers le Père. Le fils cadet et le fils aîné sont tous les deux autant éloignés du Père l'un que l'autre, mais pas pour les mêmes raisons. Pour le frère cadet, c'est sa désobéissance qui l'éloigne du Père. Pour le frère aîné, et ça peut vous surprendre, c'est son obéissance qui l'éloigne du Père. Cette parabole nous apprend qu'on peut se révolter contre Dieu et être éloigné de lui en transgressant ses lois, mais aussi en voulant les respecter scrupuleusement pour de mauvaises raisons. Je peux pécher contre Dieu non seulement en désobéissant à Dieu, mais aussi en obéissant à Dieu pour de mauvaises motivations dans mon cœur. En faisant les choses non par amour pour Dieu, mais par amour pour moi-même. En menant une vie bonne du point de vue moral, mais avec le désir d'influencer le Seigneur, de le contrôler, de le mettre dans une position où j'en arriverai à croire qu'il me sera redevable. Au final, Jésus condamne les deux. Il condamne à la fois une vie dissolue et une vie remplie de moralisme. Les deux fils ont besoin de la grâce de Dieu, même si à vue humaine, le péché de l'un est peut-être plus flagrant que le péché de l'autre. Deuxième leçon importante, primordiale. Le fils cadet et le fils aîné sont tous les deux aimés par le Père. Tous les deux. Au fils cadet, dont le péché est tellement flagrant, le Père n'adresse aucun reproche quand il vient vers lui. Pas un seul reproche. Il le accueille bras grands ouverts. Et de la même manière, Dieu ne regarde pas les hommes pécheurs en disant « Mais que vous êtes nuls !» Dieu ne nous regarde pas comme ça. Non, il attend le retour de l'homme pécheur vers lui. Il attend le désir d'être pardonné. C'est ce qu'affirme Paul en 1 Timothée 1, versets 15 à 16, où il dit « La parole que voici est certaine, elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver des pécheurs. Je suis pour ma part l'exemple type d'entre eux, mais Dieu a eu pitié de moi pour cette raison. Jésus-Christ a voulu en moi l'exemple type des pécheurs, montrer toute l'étendue de sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle. Au fils aîné, le Père vient de la même manière vers lui pour l'inviter à se joindre à la même fête. Et Dieu invite les fils aînés à abandonner leur propre mérite, leur propre justice, pour se tourner pleinement vers lui et participer à la joie du salut. Et le psaume 49, versets 8 à 9 affirme « Aucun ne saurait payer à Dieu sa propre rançon, car le rachat de leur vie est bien trop coûteux. Il leur faut à tout jamais en abandonner l'idée. » Il faut que le fils aîné abandonne l'idée de gagner son salut sur le principe du mérite. C'est impossible, tout simplement. La même invitation est lancée aux deux fils, au fils cadet et au fils aîné. Tous les deux sont invités à rejoindre la fête du salut, parce que tous les deux sont éloignés de Dieu, mais tous les deux aussi sont aimés par Dieu. Le fils cadet comme le fils aîné sont tous les deux à la fois éloigné et aimé de Dieu. La question fondamentale que nous pose cette parabole, à mon sens, quel est mon modèle de vie, personnel, familial et communautaire ? Quel est mon modèle de vie ? Souvent, tous nos enseignements, prières, conseils, réflexions vont, et avec raison, contre le modèle de vie du fils cadet, dont le péché est si flagrant. Mais est-ce que c'est la même chose par rapport au modèle de vie du fils aîné ? Est-ce que nous luttons avec la même vigueur, la même intransigeance contre ce modèle de vie-là, basé sur le mérite ? Si nous nous engageons uniquement contre le modèle de la vie du fils cadet, en pensant que le modèle de la vie du fils aîné est quelque part moins grave, on fait une énorme erreur. On fait une erreur d'abord sur le plan personnel. Si je pense que tant que j'obéis, je suis un bon chrétien, mais qu'en même temps je ne connais pas le Père, que j'obéis uniquement en espérant mériter quelque chose, je suis éloigné de Dieu. Et je suis perdu, en fait. Je ne connais pas Dieu. Je n'obéis pas par amour pour lui. J'obéis par amour pour moi-même. Voilà quelques pistes qui peuvent nous aider à démasquer le modèle du fils aîné dans nos propres vies, peut-être. Si vous êtes comme le fils aîné, vous allez penser que tous ceux qui sont éprouvés le sont parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Si vous êtes comme le fils aîné, vous allez être furieux, amer, lorsque l'épreuve va survenir dans votre vie. Et vous crierez à Dieu, « Tu es injuste. » Si vous êtes comme le fils aîné, vous allez peut-être vous soumettre à Dieu, mais par peur, et pas avec joie. Si vous êtes comme le fils aîné, vous ne comprendrez pas, vous n'accepterez pas qu'il puisse faire grâce à des gars comme le fils cadet. Vous n'accepterez pas que Dieu puisse faire grâce à des personnes comme ça, qui ont un péché tellement flagrant dans leur vie. Pour ceux qui parmi nous connaissent Christ, personnellement, nous devons être conscients du danger. Parce que je crois que bien souvent, on est très, très, très conscients du danger du fils cadet. Mais souvent, malheureusement, on est plus dilettant peut-être avec le modèle du fils aîné. Et on peut tomber dans ce modèle-là du fils aîné, ressembler au fils aîné. Vos réponses aux questions précédentes vous permettront de découvrir si vous êtes peu à peu en train de vous calquer sur le modèle du fils aîné ou si vous êtes toujours sous la grâce de Dieu. Sur le plan familial maintenant, je m'interroge vers quel modèle de vie, quel exemple de vie nous donnons à nos enfants. Ils ne sont pas là ce matin. Quel modèle de vie est-ce que je donne à mes enfants? Quel est le but principal de l'éducation que je leur donne? Est-ce que c'est simplement d'avoir une bonne morale? Est-ce que c'est ça le principal? Alors je ne dis pas que c'est mal, mais je crois que si le but fondamental de notre éducation pour nos enfants, c'est d'avoir une bonne morale, on loupe le coche, c'est une erreur. Je ne peux pas ériger une bonne morale comme principe de base à l'éducation de mes enfants, car cela y conduira à l'échec. S'ils n'arrivent pas à atteindre mon idéal de moralité pour eux, ils deviendront des fils cadets, et la culpabilité les brisera. S'ils y arrivent, ils deviendront des fils aînés, et l'orgueil les brisera. Il doit avoir une autre voie. Et cette autre voie, je crois que c'est celle du cœur. Je suis convaincu que l'éducation de mes enfants doit d'abord s'attaquer au problème du cœur. Leur problème principal, c'est leur cœur, pas leur comportement. Je dois atteindre leur tendance naturelle au péché pour qu'ils puissent prendre conscience de leur péché. Je dois atteindre leur conscience pour qu'ils soient conscients de la grâce de Dieu. Un exemple banal, pour mieux comprendre. Entre l'enfant qui est très très sage sur son banc, pendant tout le culte, et l'enfant qui ne fait que bouger. Est-ce que l'enfant qui est très sage sur le banc du culte est forcément beaucoup plus proche de Dieu, beaucoup plus juste, beaucoup plus saint? Pas forcément. C'est peut-être juste un meilleur fils aîné que son petit copain. Est-ce que nous éduquons nos enfants pour avoir des fils aînés? Ou est-ce que nous élevons nos enfants pour en faire des personnes qui soient conscientes de leur péché, de la grâce? Enfin, troisième volet, sur le plan communautaire. Voilà le constat que fait Tim Keller. Le genre de personnes que Jésus attirait ne fréquentent guère les églises actuelles. Ce sont plutôt des gens moraux, conservateurs, qui assistent à nos réunions. Les dépravés, les sans-tabous, les personnes brisées, les marginaux les évitent. Si nos églises n'attirent pas les jeunes frères, c'est qu'elles doivent être davantage remplies de frères aînés que nous le pensons. D'après vous, quel est le type de personne le plus présente ce matin parmi nous? Nous sommes réunis en assemblée ce matin. Mais je suis persuadé que parmi nous, Nous avons peut-être certains frères cadets, nous avons aussi beaucoup de frères aînés qui ne connaissent pas Dieu et qui croient peut-être le connaître. Est-ce que notre vie communautaire, notre enseignement, nos prières, mettent les fils aînés face à leur situation d'éloignement de Dieu, de la même manière que les fils cadets? Nous devons nous poser la question si dans la façon de vivre notre vie d'église, nous avons dénoncé le péché du fils cadet, mais aussi le péché du fils aîné. Un exemple, un autre. Il m'est arrivé d'entendre parmi nous, « Non, là, je ne peux pas vraiment m'investir pour Dieu, tu comprends, je dois m'investir pour mes études, je dois m'investir pour mon travail. » Et personne n'y voit aucun problème. Mais si quelqu'un venait et disait « Non, non, là, tu comprends, je ne peux pas m'investir pour Dieu, il faut que je m'investisse pour mon sport, pour la pêche. » Ah, c'est pas pareil. Non. Est-ce que c'est juste? Est-ce que mon travail, mes études ou je ne sais quoi d'autre, moralement bon, est une meilleure justification pour ne pas m'investir pour Dieu par rapport à un sport, la pêche ou je ne sais quoi? Pas du tout. C'est juste que je mets en avant le modèle du fils aîné par rapport au modèle du fils cadet. Le modèle du fils aîné qui fait quoi, lui? Il revient du boulot pour voir son père. Il ne connaît rien du père. Il revient du boulot, il s'est impliqué dans le boulot. Le fils cadet, lui, revient d'où? Il a dilapidé toute sa fortune. Il a joué au foot, il a fait de la pêche. Il revient vers le père. Aucun des deux n'est juste. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'investir dans un travail, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'investir dans un sport. Mais je ne peux pas ériger et dire « parce que mon travail est très important et que c'est moralement juste, parce que mes études sont très importantes et que c'est moralement juste », de me dire « non, mais Dieu après ». Ça ne marche pas, ça. C'est faux. C'est un mensonge. En conclusion, au début de ma prédication, je vous ai posé une question importante. De quel côté vaut-il mieux être? Fils cadet mauvais genre ou fils aîné bien sous tout rapport? J'espère que vous avez bien compris. Aucun des deux n'est bon. Quel que soit le côté, vous êtes éloigné de Dieu et donc perdu. Que vous soyez un frère aîné ou un frère cadet, vous devez admettre que vous êtes éloigné de Dieu. Vous devez admettre que vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et à l'image du père prodigue, qui est sorti de la maison à la rencontre de ses deux fils, le fils de Dieu lui-même, on a parlé au moment de la scène, a quitté son ciel de gloire pour venir accomplir le plan de salut et monter sur cette croix pour mourir pour nous. Il est monté sur cette croix pour mourir pour les fils cadets. Il est monté sur cette croix pour mourir pour les fils aînés. Et si ce matin, tu te rends compte que tu es un fils aîné ou un fils cadet, aimé de Dieu, mais encore loin de lui, Christ t'adresse la même invitation à te joindre à lui à la fête du salut. Si tu connais personnellement Christ, depuis des années peut-être, mais que tu as eu tendance à te calquer, peut-être davantage sur le modèle du fils aîné, Christ te demande de la même manière de venir au pied de la croix pour te repentir, pour demander pardon. Je vous invite juste à un temps de silence, je conclurai par la prière.